franceinter.fr.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France
qui
protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu vas faire les bagnoles ?
Peut-être ! Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond et qui prend le temps de ne pas aller trop vite. CO2 mon amour avec aujourd'hui Gilles Gaillard et Yann Bouillot à la technique et assisté de Stéphane Combe, c'est Valérie, notre reine, oui, à Yastaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur, nous pouvons rouler en paix. Bonnes gens, nous sommes sauvés. L'association Sauvons le Climat nous rappelle que les experts réunis pour le 20e congrès pétrolier mondial à Doha, c'était au mois de décembre, ont apporté de rassurantes nouvelles. Les réserves estimées de pétrole et de gaz sont révisées à la hausse. Nous aurions sous nos pieds, accrochez-vous, 1383 milliards de barils. Admirez la précision de réserves pétrolières, soit de 50 à 100 ans de consommation selon les projections, et pour 250 années de réserves gazières. Champagne et cotillon pour les majeures compagnies. Et 4 planches en bois certifiées pour le climat. Alors bien sûr, ces chiffres incluent les produits non conventionnels, c'est-à-dire, vous savez, les bitumes, les gaz de schiste, bon, un peu difficiles à récupérer, à peine polluants, et espérés à corps et à cri par l'ensemble de la population mondiale. Alors, ça reste compétitif par rapport aux séduisantes mais incertaines énergies renouvelables. La biomasse et les océans rament pour absorber la moitié des 30 milliards de tonnes de CO2 rejetées annuellement dans le ciel. C'est pas grave, comme le disait Hugo Chavez, bienfaiteur du Venezuela et producteur de pétrole lui-même, le climat serait une banque, on l'aurait sauvé depuis longtemps. Donc, il est urgent de garder le même modèle. Bah oui, l'atmosphère restera la poubelle d'altitude de la société de consommation et réfugiés climatiques. Activité déjà bien présente dans le monde, est ouverte à un bel avenir. Mais, ces réfugiés ne sont pas les seuls. Parce que vous pensiez par exemple que pour tuer les bébés phoques, il suffisait d'un bon coup de bâton asséné avec conviction sur l'animal et l'affaire, hop là, comme ça a été réglé. Et ben ça, c'était l'ancienne méthode. Ça nécessitait du personnel, ça impliquait des charges patronales, ça pouvait se mettre en grève, oh là là, trop coûteux tout ça. Et surtout pas assez efficace. Et bien désormais, avec le réchauffement climatique, on obtient une mortalité bien plus massive et à moindre coût. La banquise, qui constitue l'habitat premier âge, donc des jeunes phoques du Groenland, font à vue d'œil plus d'habitat, plus de chocolat. Enfin non, ce sont plutôt les phoques qui sont chocolat. Et faute d'abri, eh bien ils sont plus vulnérables aux prédateurs et n'ont pas le temps nécessaire pour se constituer la fourrure qui les protégera des intempéries. Double peine donc. Résultat, ils meurent par milliers. Et allez expliquer aux phoques que le réchauffement climatique est une vue de l'esprit, ils vont apprécier. Bonne année les phoques. Moi je vous souhaite en tout cas, faute d'être durable, une année écologiquement supportable, avec plus d'abeilles que de maillas. C'est amusant. Alors nous aurions pu consacrer cette émission à Jeanne d'Arc pour approfondir son engagement écologique, mais vu le bilan carbone à la fin de sa vie, nous avons renoncé. L'année de la forêt s'est arrêtée en 2011. Et pourtant, on ne va pas ranger les arbres dans une boîte en carton comme les centons après la galette des rois. Et non, parce que l'intérêt pour ces espèces est bien connu par tout le monde. C'est vraiment, ça ne se dément pas, en gros ou bien en petit, chacun aime les arbres spontanément. La publicité d'ailleurs l'a récupéré, hein, merveilleusement. Oui, il y a ça dans chaque spot, dans plein de pages. Donc c'est un symbole qui est fort. On connaît bien sûr les bienfaits de la forêt. Tout auditeur averti de ceux de mon amour est parfaitement au courant. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une balade, on va dire arborée, de début d'après-midi, avec des mots feuillage, des mots racines. Ça va être un mélange on va dire artistique, scientifique et social, avec des facettes qui sont bien sûr non exhaustives. Alors pour le côté artistique, un romancier, Christian Signol, un comédien, Jacques Bonafé, un botaniste énervé, Francis Allais, et puis un sage bien sûr, presque un chêne, c'est Jean-Marie Pelt. C'est plutôt un mirabellier de Lorraine. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Émission totalement consacrée aux arbres. Avec vous Jean-Marie, on va se lancer avec peut-être une vision intéressante, celle de l'arbre dépolluant.
Moi je suis un naturaliste, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe autour de moi. C'est ce qu'on appelle l'observation, qui est la qualité première d'un naturaliste. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois qu'il y a une tendance à ce que les places publiques dans nos villes se minéralisent, ce qui veut dire que les arbres disparaissent, que les massifs de fleurs disparaissent, et que l'on va vers ce que les architectes spécialisés dans l'aménagement urbain appellent le tout minéral. Très à la mode.
Oui.
Il n'y a plus une ville qui a l'imagination de faire une place qui ne serait pas tout minéral. L'avantage, c'est qu'on peut faire l'animation des marchés de Noël, des grands trous, des foires, etc. Moi, je vois très bien les avantages. La deuxième tendance qui se dessine, c'est que les fleurs, ben, il y en a de moins en moins en ville. Les massifs de fleurs, il y en a de moins en moins parce qu'on met des graminées maintenant. Si vous regardez bien, si vous êtes attentif, vous remarquerez que nos espaces verts sont peuplés de graminées qui sont des plantes pas laides, mais qui ne portent pas de fleurs. Et voilà, c'est une tendance nouvelle parce qu'on dit les graminées, ça consomme pas beaucoup d'eau, ça consomme pas beaucoup de pesticides, etc.
Alors celles qui ne sont pas contentes, ce sont les abeilles. Et pourtant,
tout à fait. Hein, alors on est là devant un singulier paradoxe parce qu'en effet, les abeilles qui sont en ville parce que dans les campagnes environnantes, il y a beaucoup de pesticides, ce qui leur fait le plus grand tort. Ben, les abeilles, si elles sont en ville, il leur faut butiner des fleurs. Et évidemment, s'il y a de moins en moins de fleurs, elles n'auront plus de quoi se nourrir. Et la tendance va même beaucoup plus loin, parce que je vois en Alsace, où on a tendance à dire qu'il ne faut surtout plus mettre des jardinières de géranium et de pétunia sur les fenêtres de nos maisons typiquement alsaciennes, parce que ça cache l'architecture.
Oui.
Ces modes sont redoutables.
Oui.
Ces modes sont redoutables parce que ce sont des modes de spécialistes qui s'autorisent tout d'un coup à imposer leur vue à toute une population à qui on ne demande jamais son avis. Et je crois qu'il faut revenir à de la sagesse en ce qui concerne la présence des arbres et des fleurs en ville.
Alors, puisque je vous tiens, Jean-Marie, Francis Allais va intervenir hein, tout à l'heure et déjà vous lui donnez vraiment du gramme.
Francis.
Ah oui, bah, bien sûr, l'homme de la canopée.
Oui.
Et donc, lui, il va pousser un bon petit coup de gueule aussi. Vous allez l'entendre. Mais auparavant, un arbre, comment ça fonctionne?
Un arbre, comme toutes les plantes, ça a des racines qui va chercher de l'eau dans le sol et des sels minéraux, c'est-à-dire en fait de l'eau minérale. Ça monte par les vaisseaux, c'est la sève brute, ça s'appelle la sève brute, ça va dans les feuilles. Et dans les feuilles, ça rencontre un autre flux qui cette fois-ci vient de l'air et qui est composé pour l'essentiel de gaz carbonique. Et alors le gaz carbonique se combine avec l'eau, et puis ça donne de la matière végétale. En l'occurrence, chimiquement, ce sont des sucres, même si ça n'a pas un goût sucré. Par conséquent, l'arbre, il pompe dans l'atmosphère du gaz carbonique, mais il pompe aussi autre chose. Il pompe aussi des polluants. C'est une découverte vraiment tout à fait récente. Dans un rapport qui n'a que quelques mois, puisqu'il remonte au mois de septembre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a donné un chiffre très inquiétant, c'est que 1 300 000 personnes meurent prématurément dans les villes uniquement en raison de la pollution de l'air, en grande partie par les voitures et par les systèmes de chauffage, mais surtout que ce chiffre est en nette augmentation, puisque 5 ans plus tôt, c'était pas 1 300 000, c'était 1 100 000. Et on a découvert, alors c'est très récent, que les arbres peuvent fixer les particules fines qui sont très dangereuses pour le système bronchopulmonaire et qui viennent de la combustion des carburants, des hydrocarbures, du charbon.
Diesel, hein,
oui, tout et beaucoup des diesels, naturellement. Mmh. Et puis, ils absorbent aussi ce qu'on appelle les COV, les composés organiques volatiles, qui sont les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, le monoxyde de carbone, l'ozone, etc. Alors, l'arbre, il dépollue. Voilà. Et ça, c'est nouveau. Alors, il y a une information, c'est pour ça que ce thème devait être envisagé aujourd'hui. Il y a une information tout à fait récente qui nous vient de Boulder, au Colorado, où l'État américain, pas l'État du Colorado, l'État fédéral, a installé un grand institut international qui travaille sur la pollution de l'air. Et ils ont montré qu'en réalité, les arbres pompent tous ces polluants que nous venons de nommer avec une efficacité immensément plus grande qu'on ne le croyait jusque-là. On se posait la question, on se disait peut-être que les arbres dépolluent, mais on n'en est pas très sûr. Ben, du coup, maintenant, on peut le dire, on en est tout à fait sûr.
Et symboliquement, c'est très joli, parce que vous avez cité donc boule d'air. Alors, je sais peut-être que ça ne se prononce pas comme ça, mais comme une boule d'air, c'est extraordinaire. C'est là que se passent les recherches. Hein.
Oui, c'est là voilà. Que se passent les recherches. Oui, c'est vraiment symptomatique et symbolique, vous avez tout à fait raison, je ne l'avais pas noté. Et vous savez comment ça marche? Plus l'air est pollué, plus les enzymes qui sont dans les feuilles sont stimulées pour permettre à la feuille de recevoir cette pollution. Elle en fait ceci, quand c'est des composants organiques volatiles, elle transforme ces gaz polluants en de la matière végétale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la photosynthèse, mais il y a aussi une nutrition de l'arbre par les composés organiques volatiles. C'est assez étonnant et assez inattendu. Alors évidemment, les métaux lourds ne sont pas métabolisés. Les métaux lourds vont rester dans l'arbre. Ils vont peut-être même partir dans les racines, on n'en sait rien, c'est pas très clair sur ce plan-là. Une fonction de l'arbre qui était jusqu'alors vraiment totalement inattendue.
Alors on sait très bien comment polluer, maintenant on commence à comprendre comment la nature peut nous aider à dépolluer, donc
tout à fait.
Faisons avec la nature. Voilà.
Et puis alors surtout, l'arbre fixe du gaz carbonique, alors on a les chiffres là, pour la ville de Chicago, les arbres stockent au total 716 000 tonnes de gaz carbonique, qui du coup ne produisent pas l'effet de serre, puisqu'ils sont fixés dans les branches, dans les troncs, dans les racines de ces arbres. Chaque année, la ville de Chicago, par ses arbres, absorbe 26 000 tonnes de gaz carbonique. Vous avez bien compris à ce moment-là que plus on plante d'arbres, plus on freine le réchauffement climatique. Donc plus on dépollue et plus on freine le réchauffement climatique. Vous pourrez me poser une question et me dire, mais pourquoi Chicago ?
Mais pourquoi Chicago ?
Eh bien parce que Chicago, après la prohibition qui avait rendu célèbre le fameux Eliot Ness, a rasé tous les docks, qui étaient évidemment ceux qu'on voit dans les films de l'époque. Au lieu d'y reconstruire au bord du lac Michigan, non, ils n'ont pas reconstruit et ils ont fait les premiers immenses espaces verts au bord d'un lac, ce qui ne s'était jamais fait aux États-Unis. Et ils ont inventé, là nous allons maintenant rendre à César ce qui lui revient, le concept d'écologie urbaine qui est tombé en désuétude complète et que notre institut en 1972-13, que nous avons relancé ce concept grâce au travail de mon ami Roger Klein et nous avons appliqué ce concept d'écologie urbaine à Metz.
Et c'est pour ça que vous connaissez bien la prohibition, Jean-Marie, merci beaucoup pour tout ça. Et donc, on va poursuivre ce voyage, je sais que vous êtes à l'écoute, donc au pays des arbres tout au long de cette émission. Merci Jean-Marie, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir à tous et bonjour à Francis.
Alors Francis Allais, oui, mais ce sera Allais dans une dizaine ou une quinzaine de minutes, parce qu'auparavant, on va retrouver un homme, moi que j'aime beaucoup, qui est à la fois là, un comédien profond et facétieux, c'est Jacques Bonnafé, donc un homme qui va nous parler de son amour des arbres. Ce sera après Arthur H.
C'est au de mon amour, Denis Chesson.
Ma Barbarella, ma belle Calypso, je suis ton nulliste, ton clandestin dans le cargo. Je m'engouffre dans ton gouffre, je relâche et je détache ma ceinture de sécurité. Oh, ma baby, she loves me, she's my queen, c'est mon amie. Elle est si douce et si jolie, je l'adore à la folie. Oh, baby, baby, love you so. Ma contredanse, ma danse, ma turbulence, je suis ton paquebot, ton matelot barjo. Je m'engouffre dans ton gouffre, je relâche et je détache ma ceinture de sécurité. Oh,
Ulysse et Calypso, Arthur H. sur France Inter, album France Inter, choisi par notre programmateur Jean-Baptiste Olibert. Et on va partir dans le Nord maintenant avec cet homme du Nord qui est Jacques Bonnafé. Un homme de Douai, comédien qui aime les arbres, dans une région d'ailleurs où il y a très peu d'espaces verts et de forêts, ce qui fait que tout ce qui est rare est précieux. Alors racontez-nous, Jacques Bonnafé, donc cette relation que vous avez avec les arbres.
Oui, mais je cherchais absolument, quand j'étais gamin, à grimper aux branches. J'ai toujours voulu m'élever, hein, quand même. Ah, c'est pas parce que j'étais dans le Nord que je devais rester au ras du terrain. Mais il faut que je vous explique, parce que mes parents, mon père et puis ma mère, ils avotent 7 enfants. Ça fait beaucoup de bruit dans une maison, 7 enfants, 6 garçons, une fille. Et le dimanche, il y avait une obligation absolue, c'était de les sortir au bon air, au grand air. On aurait pu aller au milieu des champs de betteraves, hein, c'est sûr. Mais ils choisissaient et nous emmenaient en forêt. Ce qui fait que les quelques oasis verts qu'il y a dans le Nord, je les connais par cœur. Ceux qu'il y avait autour de Douai, par exemple, le bois de Lauerd, le bois de Marchienne, combien d'autres encore à Compiègne. On allait dans la grande forêt d'Edin. Alors là, j'étais loin, c'était du côté de Béthune et tout ça. Arrivé au bois de Lauerd, et la première chose que je faisais, c'était de grimper aux branches. J'avais un arbre préféré dans lequel je me sentais très très fort parce que je grimpais au-dessus de mes frères et sœurs, ou c'est ce que je me racontais, ou en tout cas je m'octroyais pendant quelques instants la place du petit poussé si jamais nos parents avaient eu l'idée de vouloir nous perdre dans ces bois. Je me disais, au moins de là-haut je vois venir l'avenir, quoi.
C'est ça, oui, bah c'était un peu votre beffroi, quoi, en quelque sorte.
Ah bah ouais, c'est ça. Mais c'est pas fou que les édifices religieux aient quelque chose à voir profondément avec les arbres. Déjà par tout l'intérieur d'une cathédrale et une espèce de forêt reconstituée dans son jeu de lumière, et puis on voit dans la puissance de ces troncs naturels que sont les piliers.
Et alors Jacques Bonnafé, il faut dire aussi que chez vous, sous vos pieds, mais il y a de la forêt à l'envers. Parce que si on monte au Carbonifère, c'est à peu près, je vous le fais, à 300 millions d'années en arrière, ben ça a été le début en fait du charbon. Et qu'est-ce que le charbon? C'est de la décomposition, entre autres, de forêt.
Ben alors, je ne vois pas pourquoi on accuse le charbon de tous les maux.
Oui.
Alors après, c'est du bon bois, quoi. C'est quand même une des sources d'énergie principale
au
monde, hein, je crois, le charbon.
On a 50% d'électricité mondiale qui est issue du charbon.
Une des émotions, petites émotions issues des dictées et des chansonnettes ou des contes qu'on se racontait dans le Nord, ou des histoires, plutôt des histoires naturelles, c'est le fossile, c'est la fougère inscrite dans le charbon, c'est toutes ces traces d'une vie antérieure, végétale, intense, et d'imaginer au milieu de ce pays plat qui a été chanté par Brel, qui avait des arbres qui faisaient des dizaines et des dizaines de mètres de hauteur, etc. Oui. Une grande forêt primitive importante.
On a fermé les puits, éteint les laminoirs. Les hommes montrent aux enfants la route des pommiers blancs de Solesmes, le ciel réchauffé par la brique, la rondeur du ventre des carpes. L'eau coule par les forêts. On traverse le pays comme si l'étendue des terres allait nous rendre plus forts, plus humbles. La neige remplit le corps des robes. Les corbeaux dansent avec les fées. Il y a Mormal et les étangs cachés. Les vierges enfouies dans la pierre des chapelles, 20 peupliers dressés à la porte des villages.
Est-ce que vous aimez encore discourir en forêt? C'est-à-dire que lorsque vous vous promenez, c'est un lieu qui vous donne des idées, c'est un lieu dont vous avez besoin, vous laissez les pensées bagnauder, vous faites rien.
Et c'est... Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que la première chose que je cherche, que je vais trouver, sans l'avoir forcément calculé, c'est des peurs. Des peurs anciennes, des peurs ancestrales. Il y a un secret, quelque chose caché dans la forêt. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas crier à une apologie, une beauté de la forêt, etc. Elle impressionne. Une personne que j'emmenais dans la Creuse, où j'avais une maison, et vraiment au milieu des arbres magnifiques qui sont là-bas, vraiment on a un massif forestier en France impressionnant, me disait c'est trop de vert. Elle me parlait de la claustrophobie que ça lui crée, etc. Je comprenais très très bien. En dehors de cette masse même, dans le secret des bois se cachent de vieilles histoires qui sont nécessaires à notre imagination, à notre à notre force aussi. Mais il faut oser affronter ces choses. C'est pas une promenade bucolique et facile. Non, c'est pas commode la forêt, le bois.
Lorsque vous êtes dans le Nord, il y a un arbre comme ça de référence pour vous encore ? Vous étiez petit ou pas ?
Ah, quand j'étais petit, je pensais qu'il n'y avait que nous qui avions le boulot. Parce que, évidemment, les mots se mélangeaient. Je pensais que partout on affichait le Nord, terre de travail. Voilà, c'est toujours important. Je pense que bien d'autres le sont, et particulièrement les terres agricoles, partout en France. Alors, donc, je pensais que... je voyais sur les espèces de marais qu'avaient créé les effondrements miniers, beaucoup de bois de bouleau poussait à toute vitesse autour de ces étendues d'eau. Alors, il y avait un arbre particulier au Nord, Yéto tout seul, hein, du coup, sur la route entre Denain et Valenciennes, je crois bien. Yéto, l'arbre à loques. L'arbre à loques, alors ça c'est particulier parce que c'est un culte local. Les gens, ils accrochent des petits bouts de tissu et puis ils font des ex voto, ils font des vœux. Oui. Alors, mais des tas de choses, les uns pour retrouver la fertilité, les autres pour essayer de parler avec l'âme de leur enfant décédé. Il y a des tas de petites choses. Alors c'est un grand arbre au bord d'une route. Il a l'air un peu sale, on dit, ben voilà, là, j'ai des tas de trucs accrochés, il est passé à travers une tempête, il y a une marée qui lui est passée dessus.
C'est qu'il y a une décharge qui est pas loin.
Et oui, c'est ça.
Qui a ventilé.
Et on s'approche et on s'aperçoit que c'est un truc de rebouteux, quoi. C'est un arbre qui permettait d'exaucer les vœux.
Et alors, lorsque vous êtes parti un peu sur les traces de Rimbaud, là, ça veut dire que vous êtes parti dans les Ardennes. Oui. Là, c'est autre chose, parce que vraiment, la forêt est extrêmement prégnante, quoi. Lorsqu'on parle des Ardennes, c'est un massif forestier incroyable.
Ah, elle fait peur, là aussi, moi, dans mon souvenir. C'est-à-dire, il faut un peu s'équiper avant d'y aller. Ouais. Elle est parfois noire, elle est parfois profonde. Dans les Ardennes belges, il y a une époque où il y avait d'assez jolis villages, et puis qui ont été un petit peu délaissés. Mais c'est là qu'est né le Front de Libération des Petits Nains, d'ailleurs. Je pense que c'est dans ces coins-là. J'arrive plus à me rappeler la ville exactement, mais qui a eu les premiers méfaits de ces groupements révolutionnaires surréalistes.
Bien sûr. Parce que le nain, le lutin, de toute façon, est un féodé à l'arbre, quoi qu'il arrive.
Oui, et aux forêts. Oui. Et c'est marrant parce que qu'est-ce qu'ils font, les petits nains, dans les forêts ? Ils reviennent de la mine.
Qui reviennent du bois en quelque sorte.
Du bois, alors dans pas mal de forêts, il y a un alliage comme ça entre le minéral et l'arbre. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur les hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau. Au nord, par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Die, à l'ouest, par les plaines du Comtat vénétien et les contreforts du Mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts.
Il y a un homme que vous aimez beaucoup et un ouvrage aussi, c'est Jean Giono, avec bien sûr L'homme qui plantait des arbres, où on redécouvre Elzé Arboufier, toutes les générations de toute façon le redécouvrent. Et quand les gens disent, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, d'un point de vue environnemental, moi, je leur dis, lisez L'homme qui plantait des arbres.
Oui.
Et même si vous plantez pas forcément vous-même des glands de chêne, etc., mais vous allez planter autre chose. Mais c'est une super métaphore, ça.
Quand on parle de racines, à propos, c'est profond les racines. Eh ben, j'ai constaté que le bout de mes racines arrivait en Provence et j'en étais content. Je pouvais aller puiser là-bas. Non, c'est-à-dire que toute sa langue, il y a beaucoup de choses de son œuvre qui m'impressionnent. Et puis son sang-froid, là, comme une certaine analyse du monde qui l'entoure, tout d'un coup est clair avec lui. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la légende de l'homme qui plantait des arbres, Ezea. Son histoire est tellement convaincante. Comment métamorphoser une vallée par l'action d'un seul homme qui plantait des graines, qui plantait des semences d'arbres. Tout le monde a cru que c'était un document vrai, chercher cette vallée, et elle n'existait pas. Et Jean Giono a institué du bon côté de l'image le mensonge vrai. Il a dit, mais comment raconter mieux la réalité qu'en mentant, pas un petit peu, mais on va dire en mentant prodigieusement. Cette histoire incroyable donne effectivement de l'énergie à tous ceux qui vont se battre et qui sont découragés en disant, mais la nature ne sera jamais assez forte pour absorber la pollution, par exemple, les gaz, etc. Alors de Elzéar, on passe par exemple une petite histoire qui paraît un conte contemporain, des murs végétaux aux propriétés thermiques, acoustiques et dépolluantes, c'est le pari tenté par une entreprise lyonnaise, Canva Flore. Cette petite PME s'est associée depuis 5 ans aux travaux d'une chercheuse de l'Université scientifique de Lyon, CNRS École des Mines INRA, pour démontrer que son mur peut absorber une partie des polluants de l'air, les BPRX. C'est un article que je trouve dans Le Monde. Des murs végétaux contre le bruit, la pollution et le froid. Or, je me dis, oh bon, c'est une petite chose, c'est un gadget, accroche, etc. Or, les calculs qui ont été faits sur l'absorption des particules de carbone, entre autres, par ces murs végétaux à l'entrée du tunnel de Fourvière, et puis ici, à deux pas d'ici, RER Magenta, montrent que ça a une grande efficacité. Alors, c'est pas seulement par les végétaux, comme on le sait, mais aussi par les substrats, c'est-à-dire par les micro-organismes qui se trouvent dans le terreau, hein, dans les racines, et qui, eux, ont une capacité à fixer ces éléments polluants qui sont dans l'air et à les capter, à les transformer. Voilà.
D'où le travail d'ailleurs du sol, une fois de plus. Hein. Lorsque l'on parle de forêt, on sait très bien que donc, l'arbre va absorber le carbone et rejeter l'oxygène, mais il y a tout le travail du sol, encore plus important, oui. Même que le feuillage, et ça, parfois, on l'ignore.
Donc. Oui, oui.
Si je vous dis quel arbre vous avez envie d'être, ou bien quelle est la part d'arbre qui est en vous, peut-être ça aussi.
J'hésitais, j'avais le marronnier de nos écoles, etc. Ne soyons pas nostalgiques, mais quand même, je vais prendre l'érable parce que c'est lui qui fait le plus d'hélicoptères.
Quel bel ambassadeur des arbres, hein. Donc merci beaucoup Jacques Bonafé, qui a signé d'ailleurs un manifeste très intéressant, hein, qui est le plan forêt régional de la région Nord-Pas-de-Calais, parce que cette région a choisi de tenter de doubler donc la surface forestière d'ici donc quelques années, et voilà, donc il faut s'engager aussi, quels que soient les gestes, les petits et les grands. Et un homme qui est bien engagé, on va le rencontrer dans quelques instants, on en a déjà parlé, c'est Francis Allais, donc un scientifique. Je pense un petit coup de gueule à la clé. Et alors là, c'est l'arbre, mais qui est au fond du jardin. Ah non, c'est le chêne liège. C'est bien aussi.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. Êtes-vous faire. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne-liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
Ah, champignons, dites donc.
Mais c'est le symbiote de ce pain.
Et ben voilà. Et oui, parce que... Alors d'abord, bonjour Francis Allais.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes biologiste, botaniste depuis très très longtemps, spécialiste des milieux tropicaux. Et vous venez de sortir, et donc on s'est mis là sous un pin. C'est un endroit quand même un peu minéral, mais il y a quand même quelques arbres pour en parler. Ça tombe bien parce qu'on entend les rumeurs de la ville. Et vous avez sorti du bon usage des arbres. C'est une adresse aux énarques et aux élus. Qu'avez-vous envie de leur dire? Pourquoi un peu ce coup de gueule?
Parce que je constate que ces gens-là, je pense notamment à l'ENA, oui. J'ai eu la curiosité d'aller mettre mon nez dans ce qu'ils apprennent à l'ENA. Pas un mot d'écologie. Mais est-ce que c'est raisonnable dans notre monde actuel? C'est une demande. Est-ce qu'on peut ignorer l'écologie quand on est un décideur? Ça me paraît absurde.
Alors ça veut dire que pour eux, par exemple, les arbres, ce sont du mobilier urbain.
C'est du mobilier urbain. On le plante et puis on le laisse pousser tant qu'il ne gêne pas. Puis le jour où il gêne, ben on le coupe, on le remplace par un petit buisson avec des fleurs, n'importe quoi.
Alors, au départ, c'est du vivant.
Alors, c'est du vivant, mais c'est plus que du vivant. Ce sont nos protecteurs. L'arbre, ça va être l'être vivant qui va nous changer la vie, qui va nous sauver la vie. Ça purifie notre atmosphère, ça nous envoie de l'air frais. Ça entraîne la pluie, ça améliore les sols, ça retient, ça contient une faune et une flore dont nous avons le plus grand besoin. Ce sont vraiment nos alliés. Alors, les traiter comme du mobilier urbain, je trouve ça lamentable. Et donc, j'ai poussé un coup de gueule, voilà.
Vous avez raison. Et en ville en particulier, ça peut aussi servir de climatiseur lorsque l'on est dans des périodes de canicule.
Alors, on pense seulement à l'ombre que ça fait. Oui. Il y a cet effet-là, en effet, sous l'ombre, c'est moins chaud. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a, un arbre, c'est comme une énorme mèche qui évapore dans l'atmosphère des tonnes d'eau. Et la transformation de l'eau en vapeur d'eau, ça coûte énormément d'énergie, donc il fait frais sous un arbre.
Tu vois ce paysage ici avec le pré, le ruisseau, l'arbre, le village, l'église au fond, c'est à la fois l'œuvre de la nature et celle de l'homme. Et ceux qui ont délimité ce terrain, bâti ces maisons, planté cet arbre, même si leurs noms ne sont pas dans le dictionnaire, ce sont des artistes.
Alors Francis Allais, qui aime bien Châtibien, c'est-à-dire que vous êtes originaire, enfin vous, depuis une quarantaine d'années, vous habitez la ville de Montpellier, qui vient d'avoir un label, je crois, de ville biodiversité, et pourtant, bah, les arbres, ils ne sont pas forcément très bien menés.
Ça m'énerve de voir ça. Quand une ville affiche aux entrées, comme on a Montpellier, la ville qui plante des arbres, quand une ville fait ça, ça veut dire qu'elle a quelque chose à se faire pardonner.
Alors,
ben, ça fait 40 ans que je vois tomber les arbres. Et voilà, le citoyen, il est considéré comme trop idiot pour pouvoir comprendre les raisons techniques qui amènent aux abattages d'arbres.
Alors vous savez très bien que pour un élu, en général, un arbre c'est quelque chose qui va soulever donc, les canalisations avec les racines. Ce sont des feuilles mortes, donc ce sont des nuisances. Mais c'est aussi des nuisances aux lignes électriques, aux caténaires. Ça peut endommager les toitures. J'en passe du pollen, des allergies et des meilleurs. Donc quels sont les arguments? Qu'est-ce qu'il faut dire? Pourquoi effectivement ces arbres sont nécessaires en ville?
Alors ils ne font effectivement qu'une moitié du constat. Mais seulement, il faudrait mettre au regard de ça les avantages des arbres.
Alors quand ils vous disent, par exemple, on va abattre ce vieil arbre, mais rassurez-vous, on va en planter 10 nouveaux, 10 jeunes.
C'est un langage que j'entends très souvent et je ne suis pas du tout content de ça.
Vous parlez d'arnaque, hein, carrément.
Je parle de triple arnaque. Et je suis désolé de voir mes concitoyens se dire « Oh bon, le maire a raison, en effet, s'il en met 10 à la place d'un, on est gagnant. » Non, ils sont perdants.
Expliquez-nous.
Alors, l'aspect patrimonial disparaît. Et notamment, il n'y a plus la flore et la faune associées. Arnaque financière, parce que le grand arbre, il ne coûtait rien à personne. Et il rendait des services énormes à la collectivité. Alors, si on le coupe et qu'on remplace par des jeunes, il faut payer les jeunes arbres. Il faut payer les gens pour faire des trous. Il faut amener de la bonne terre. Il faut amener du BRF pour couvrir tout ça. Il faut un arrosage automatique. Et il faut des tuteurs pour qu'il aille droit. Bref, ça nous coûte.
Et puis
Francis Allais, quelle est la surface d'un vieil arbre par rapport à nos 10 jeunes arbres?
C'est justement, ça n'a rien à voir. Or, ce qui compte dans un arbre, c'est sa surface. Des surfaces extraordinairement grandes. Un petit arbre comme celui-là, ou sous lequel on est, c'est facilement 200 hectares. 200 hectares. Ah non, c'est tout à fait étonnant. Je parle là aussi des surfaces souterraines. Hein. Ouais. Ce sont des êtres de surface. Alors, remplacer un grand arbre qui peut avoir 500 hectares de surface par 10 petits arbres, c'est une arnaque écologique. Parce qu'il va falloir 25 ans pour que, collectivement, ils retrouvent la surface perdue.
Alors, nos élus s'intéressent aussi aux arbres au bord des routes. Et là, on a constaté évidemment qu'il y avait beaucoup d'abattage, parce que, sans du tout faire du mot noir, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont perdu les enfants, etc. Et ça, on le comprend très bien. Mais on sait que l'arbre bourré à 2h du matin qui sort d'une boîte de nuit va se jeter sur une voiture. Bien, qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? Et est-ce vrai qu'en abattant des arbres, on ait moins d'accidents de la route?
On a un recul suffisant pour comparer la mortalité sur les routes avant et après abattage. Or, la mortalité ne diminue pas. Ce n'est pas du tout la présence d'arbres qui va contrôler le niveau de la mortalité. Il y a même un point de vue que je trouve extraordinairement subversif et qui nous vient de Grande-Bretagne. Quand on met les arbres de plus en plus serrés le long des routes, les gens freinent parce qu'ils ont l'impression que leur vitesse est excessive. Et donc, ils ont constaté en Angleterre que ça faisait baisser la mortalité. En Angleterre, on commence à replanter des arbres le long des routes. Je trouve ça drôle.
On est tombé sur un arbre. On est tombé sur un arbre.
Faut mieux tomber sur un arbre que de rentrer dedans.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites là-bas?
Vous voyez bien que la chance existe.
Profondément, vous êtes toujours, je veux dire, engagé. Oui, c'est un engagement. Bon, vous êtes un scientifique avant toute chose, mais pourquoi cette passion pour les arbres?
Eh bien, je constate qu'elle augmente à mesure que je les étudie. Oui. J'ai pas toujours été comme ça. J'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour les arbres et beaucoup d'admiration. Mais année après année, quand je vois tout ce qu'ils réussissent à faire, je les aime profondément et je les conçois vraiment comme des gardiens de l'avenir pour l'être humain. Nous devrions faire extrêmement attention aux arbres. Il faut les soigner, voilà, il faut les prendre en considération sans arrêt.
Francis Allais, alors ça on ne le sait pas, parce que c'est une information qui est tout à fait récente. Quel est le rapport entre les arbres et les tremblements de terre?
Les universitaires japonais se sont aperçus qu'on pouvait utiliser les arbres pour prévoir l'arrivée des séismes. Alors, c'est un peu compliqué sur le plan technique. Nous avons un champ magnétique sur la Terre, ce qui nous permet d'utiliser une boussole. Mais pour des raisons que je ne connais pas, ce n'est pas un champ constant, c'est un champ qui suit une sinusoïde, comme ça. Alors, ils mettent une électrode dans le tronc et une électrode dans le sol, dans une racine. Et puis, ils analysent la courbe. Et tant qu'elle est sinusoïdale, paisible, il n'y a pas de souci. Mais le jour où cette courbe monte ou descend de façon anarchique, attention, un séisme est en route.
Alors Francis, allez, on va aussi répondre à cette question qui intéresse toujours les gens. Lorsque l'on voit un arbre, on voit un tronc, on voit un feuillage. Et bien évidemment, il y a le sous-sol. Hein. C'est peut-être pas comme un iceberg, mais c'est quand même extrêmement important. Tout le côté racinaire, comment ça se passe? Parce qu'on vient de découvrir aussi qu'il y avait un système d'information et de communication. Alors grâce au réseau ou bien grâce, on va dire, à cette espèce de feuillage souterrain, comment ça fonctionne?
C'est la partie la moins connue de l'arbre, mais c'est évident. Je voudrais d'abord dire qu'elle est très souvent beaucoup plus importante que ce qu'on voit. C'est donc un organisme plutôt souterrain, un arbre. Bon, alors on s'est aperçu aussi qu'il y a des feuilles souterraines. C'est très curieux. Ces feuilles souterraines, elles meurent à l'automne et elles se remettent en place au printemps. C'est vraiment des feuilles. Ce qui est intéressant, c'est que ça leur sert de vecteur de communication. Un arbre qui, par exemple, manquerait d'un élément minéral ou souffrirait de sécheresse, eh bien, il est aidé par les autres, par l'intermédiaire du champignon mycorhizien. Alors ça devient tout à fait intéressant et les arbres communiquent entre eux.
Je suis un arbre, je vais manquer de phosphore ou de potasse, donc je me sens quand même pas aussi bien qu'avant. Je pouvoir obtenir de l'aide d'un autre arbre?
Oui, les voisins le savent et les voisins ont les moyens de vous envoyer ce qui vous manque. Les arbres ont une influence bénéfique les uns sur les autres. Regardez Denis, il y a un bolet là.
Oui.
Eh bien, c'est la fructification du champignon mycorhizien qui est en symbiose avec ce pin.
Qu'est-ce qui nous manque encore dans la connaissance des arbres? Parce que là, il nous faut évidemment pas mal de sciences, il nous faut de l'écologie, des écologues travaillent dessus, des botanistes. Qu'est-ce que l'on ne sait pas encore?
Il y a un aspect électrique qui existe, mais sur lequel nous n'avons pas suffisamment d'informations. Couper un arbre, c'est un peu comme lui couper le courant. Et ça, pour moi, ça reste mystérieux. Je pense que ça a des incidences vers le haut. Les arbres, notamment les pins, émettent des ions négatifs. Et quand il y a des ions négatifs, nous, on se sent bien. Pourquoi est-ce qu'on est bien dans une pinède? C'est apparemment à cause de ces ions négatifs. Les ions positifs, c'est l'air renfermé dans une chambre qui n'a pas été ouverte. Eh bien voilà, c'est des problèmes de charge électrique, ça. Il y a toute une électricité de l'arbre qui reste à établir. Bon, bah, c'est pour les générations qui viennent.
Francis, qu'est-ce que vous observez là? Vous avez la main sur l'écorce. Quand vous regardez un arbre comme celui-là...
Ah, facile. Il y a une rangée de cicatrices là. Il y en a une autre ici. Il y en a une autre là. Eh bien, ça, c'est un an. Ça, c'est un an. Ça, c'est un an.
Ah, d'accord.
Et chaque verticille de branche, c'est un an de plus. Voilà un arbre que je peux dater avec une précision absolue, sans même compter les cernes dans le bois.
Quel âge as-tu? Il répond pas. Mais vous, éventuellement, vous lui donnez...
Je lui donne... 35 ans.
Pas mal. Hein, bon, c'est un début hein, pour un arbre 35 ans. Merci Francis Allais qui a donc écrit « Du bon usage des arbres à l'usage des énarques et des élus ». C'est aux éditions Actes Sud dans la collection « Domaine du possible ». Donc nous avons eu un scientifique, Jean-Marie Pelt. Nous avons eu un comédien, Jacques Bonafé. De nouveau un scientifique, Francis Allais. Et nous allons avoir un romancier, Christian Signol, après Pierre Sfaccini.
I dreamt the dreamer was lying. I dreamt that the dreamer was wrong. I dreamt the dreamer was dying. I woke and the dream was gone. I saw the blackest star swirling up the ground. I saw towering flames when it came crashing down. I saw the stranger's eye. Oh, was it my own? I saw the mirror break. I was left alone. I dreamt the dream was lying. I dreamt that the dream was wrong. I dreamt the dream was dying. I woke and the dream was gone. I saw great pillars fall, opening up the skies. I saw foundations raise, saw it with my own eyes. I saw my own head wound, strangely bathed in light. Into the night. I dreamt the dream was lying. I dreamt that the dream was wrong. I dreamt the dream was dying. I woke and the dream was gone. Drowned under the sliding ground, I heard a quiet resound. I've dreamt 100 times, each time the same. And tonight, when I dream it all again. We'll be right back.
Dreamer sur France Inter, Pierce Faccini, un homme qui du sud, oui franchement, et qui doit vivre, me semble-t-il, du côté des Cévennes, donc pas loin de la civilisation du Châtaignier. Et nous, on va remonter tranquillement, on va aller dans le Limousin. On va rejoindre un homme, en fait, qui a un énorme succès populaire, Christian Signol, qui est assez discret dans les médias, pour dire que les critiques parisiens donc s'en emparent violemment, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Au cœur des forêts », qui marche très bien, merci pour lui. Et donc, on se trouve, Christian Signol, après la tempête de 1999, avec un homme qui s'appelle Bastien, qui a une passion forestière et qui veut donner du sens encore plus important, on va dire, à son existence. Il se trouve que sa petite fille, Charlotte, lui demande de le recueillir parce qu'elle est malade. Donc on a deux blessures, c'est-à-dire il y a celle de la tempête et puis celle de cet enfant. Et donc Bastien va se battre pour soigner l'une et l'autre. C'est le thème de cet ouvrage, Christian Signol.
J'ai voulu en fait écrire une parabole, c'est-à-dire que Charlotte étant gravement malade d'un sarcome des Wings, et demandant de l'aide à Bastien qui vit dans sa haute forêt limousine, j'ai voulu montrer qu'elle ne pouvait être guérie que si elle renouait le lien qu'elle avait perdu avec le monde sensible et avec le monde naturel. Tout ça signifie que la civilisation contemporaine, la civilisation moderne des grandes métropoles n'est pas tout à fait la mienne, et c'est une parabole à laquelle je crois énormément, je suis persuadé que le salut pour l'humanité, si je puis dire, dépendra de sa possibilité ou non de renouer, encore une fois, le lien avec le monde sensible.
Alors vous, Christian Signol, qui est un homme du Lot, hein, on vous présente, on parle de la Corrèze, mais non, vous êtes au départ un homme du Lot, vous avez eu affaire aux arbres aussi tout petit, et je dirais que toute votre œuvre est imprégnée par les arbres. Si on prend simplement la rivière Espérance, qui a eu un succès phénoménal, bah, c'est quand même l'histoire des gabarres, donc en bois, qui descendaient du Mérin. On peut penser aussi au Chêne d'Or, on peut penser à d'autres ouvrages. C'est-à-dire que ça vous irrigue en permanence, hein.
En permanence, parce qu'en fait, je pratique, je côtoie, et j'aime les arbres depuis mon enfance, où je me rappelle avoir vu de grands ormes magnifiques sur la place de mon village. Ensuite, sur le Causse, quand j'allais voir mes grands-parents, c'était les chênes nains du Causse, dont la mousse, l'odeur de la mousse était pénétrante, âcre, mais a toujours été associée à moi, à une idée du bonheur indestructible. Et puis ensuite, quand je descendais plus bas, dans la vallée de la Dordogne, j'étais en contact avec les grands chênes, avec des frênes, avec des charmes, avec des trembles, avec des aulnes, et avec les magnifiques peupliers d'Italie, dont était si friand Stendhal. Et donc, effectivement, toute mon œuvre, si je puis dire, est irriguée par cet amour des arbres. D'ailleurs, j'ai moi-même planté beaucoup d'arbres, et notamment au moment où j'écrivais les chênes d'or, des chênes truffiers. Mais j'ai également planté des érables, j'ai aussi planté, il y a une vingtaine d'années, un magnifique chêne vert sur le terrain de ma maison du Causse, avec qui j'entretiens des relations privilégiées, c'est-à-dire que je lui parle, je l'interroge, et il me répond assez facilement. Je l'interroge par exemple sur le monde, sur le vent, sur les nuages et sur les hommes. Alors je comprends que pour les hommes, il n'en a pas une idée très très favorable, mais il se console en me disant que de toute façon le monde a commencé bien avant les hommes et qu'il leur survivra.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Et alors, ça rejoint complètement votre ouvrage, donc, Au cœur des forêts, parce que le père de ce héros, donc, qui s'appelle Bastien, a totalement immergé son gamin dans la forêt. C'est comme ça qu'il est devenu forestier. Et en fait, pour lui, les arbres rêvent.
Pour lui, les arbres rêvent d'atteindre le ciel, de pousser très très haut et d'atteindre le ciel. Et quand le fils de Bastien lui demande « Mais pourquoi rêve-t-il d'atteindre le ciel ?», Bastien lui répond « C'est pour mieux nous hisser vers lui, nous les hommes, si petits, si perdus, si étrangers au secret merveilleux de nos vies. »
Et alors, lorsque cette tempête de 1999 apparaît, ça c'est le côté romancier, mais pour vous, c'est une espèce de colère qui était retenue par la forêt, qui était trop maltraitée, qui s'est lâchée.
Oui, absolument, une parabole en quelque sorte aussi. Hein. Pour moi, c'est une colère, une vengeance, je dirais, ouais. De la forêt par rapport à l'humanité, qui en général traite assez mal les arbres. Quand on pense à la déforestation qui existe au Brésil ou ailleurs, ou en Amérique l'Amérique latine ou même au Canada, hein. Effectivement, je pense qu'un jour ou l'autre, le monde qui nous porte et dont nous ne sommes que des locataires très provisoires finira par se venger, ce qui est arrivé déjà à plusieurs reprises.
On est passé en fait de la hache à la scie, de la scie à la tronçonneuse, et puis de cette machine complètement infernale et très efficace qui vient du Canada, qu'on appelle un timberjack. Qu'est-ce que c'est ça?
Ce sont des monstres de mécanique qui peuvent couper et brancher les arbres en quelques minutes, alors qu'il fallait une demi-journée auparavant pour un seul arbre.
Ouais. Une grosse araignée, quoi, en gros.
Une grosse araignée. Ils sont animés par des jeunes de l'école forestière de Meymac, en l'occurrence, là, dans ce livre, puisque ça se passe en Limousin. Et c'est aussi un espoir pour moi, dans le sens où j'ai vu, en montant là-haut pour enquêter, parce que j'ai enquêté pendant un an avant d'écrire ce livre, j'ai vu toute une jeunesse venir vers ces forêts pour y trouver du travail, et je les ai vus œuvrer dans le plus grand bonheur, finalement.
Oui, mais avec aussi donc peut-être les réserves d'usage sur la répartition entre les feuillus et les résineux.
C'est vrai que depuis quelques années, on va plutôt vers les résineux que vers les feuillus, pour des raisons très simples et très compréhensibles.
Très économiques.
Les résineux poussent beaucoup plus vite et qu'ils ont des qualités identiques d'homogénéité ou de souplesse. Donc, par exemple, si vous voulez un chêne pour arriver à maturité, il lui fallait 100 ans, alors qu'aujourd'hui, un chêne d'Amérique, 40 ans, ça suffit pour le couper et utiliser le bois. Oui. Pour les autres résineux, c'est un peu la même chose, que ce soit les douglas, les grandis ou les sitkas, qui sont des épicéas d'Amérique, c'est aussi la même chose. Mais encore, quand même, en Limousin, les feuillus représentent encore 70% de la plantation.
Ce Limousin dans lequel vous vivez, c'est-à-dire le Limousin, on va le rappeler, c'est à la fois la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Et vraiment une terre d'arbres. Hein. Je ne sais pas quelle est la superficie de la forêt, mais c'est quand même extrêmement fort. Et donc pour vous, c'est aussi un réservoir. Alors à la fois, je dirais, d'humanité, vous voyez, je crois qu'on peut aller jusque-là. Oui. Réservoir d'eau, bien sûr, on connaît toutes les fonctions de l'arbre. Et puis aussi donc un réservoir romanesque.
Absolument, d'autant plus que la forêt a toujours été un univers privilégié pour la littérature française et mondiale. Quand on pense aux États-Unis avec Jim Harrison et Norman MacLean, en Russie avec Tolstoï et puis Pasternak aussi, et le docteur Jivago, les grands romantiques allemands, en France, ça a été Jean Giono, bien sûr, avec Le Chant du Monde, et puis surtout Julien Gracq avec Un balcon en forêt, qui est un de mes livres de chevet. Donc il m'a semblé effectivement que vivant dans cet univers qui était propice à une œuvre romanesque, il était pour moi tout à fait judicieux de pouvoir faire concilier cet univers d'enfance, si vous voulez, avec un univers romanesque dont l'originalité et la force est absolument pour moi indiscutable.
C'est un arbre. C'est un arbre qui chante. Vous êtes taré. La galère. Ça dure combien de temps?
4 heures.
Oh putain!
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les arbres, en général?
Les arbres me parlent. Je leur parle. J'entretiens avec eux des conversations secrètes dont ils m'interdisent de divulguer la teneur auprès du commun des mortels.
Bon, bah écoutez, en plus, on a une pensée émue parce qu'avec ces arbres, on fait du papier. Avec du papier, on fait un livre qui s'appelle Au cœur des forêts, voilà, aux éditions Albin Michel. Et puis un grand merci à vous, Christian Signol.
Merci à vous, Denis.
Et bien sur ce délicieux générique signé Fabrice Ravel-Chapuis qu'il a fait rien que pour nous, ce qui fait que vous ne pouvez pas le trouver sur internet, je vous le dis parce que très souvent j'ai des compliments par rapport à ce générique et ben non, on ne peut pas le piquer sur internet, c'est comme ça, il a été fabriqué par cet homme-là qui est un formidable compositeur qui accompagne d'ailleurs aussi des gens comme Jean-Guy Denis. Voilà, et bien donc sur ce générique nous allons nous quitter, merci à Gilles Gaillard et à Yann Bouillot à la technique, à Stéphane Combe, notre assistant, à Valérie Ayestar qui réalisait cette émission. Merci cette semaine à Albert Houck du Maine-et-Loire. Jean-Baptiste Audibert a choisi les disques et Anne Gouzon a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Donc on n'avait pas la prétention, hein, à travers ce thème de l'arbre, de balayer tout. On a fait déjà d'autres émissions sur les forêts privées, sur l'ONF, etc. On y reviendra donc aussi au cours de cette année. Vous dire que la semaine prochaine, Eh bien, je recevrai, alors on va essayer de donner du sens à l'écologie, qui ne peut être d'ailleurs que sociale. On va en parler avec Patrick Vivray, qui est à la fois philosophe et économiste, avec Gilles Van Der Potten, qui s'occupe de Reporters d'Espoir. Donc là aussi, on va ouvrir, voir un peu ce qui se fait. Et puis un sociologue aussi, Bernard Catala, nous rejoindra. Possibilité pour vous de podcaster, d'enregistrer cette émission une semaine, et puis de la réécouter pendant 4 semaines. Voilà, la tue du Mont Petit Loup, ce sera demain à 19h54, après les petits bateaux. Comment va la dame aux camélias? Vous voulez des nouvelles? Eh ben voilà.